matin, il est 6h40. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Le feuilleton du Brexit nous donne l'occasion, dans votre journal des idées ce matin, Jacques, d'une réflexion politique sur le fonctionnement ou le dévoiement de nos institutions démocratiques.
Oui. D'abord, Clara, je vais vous citer le dernier tweet de Bernard Pivot, qui propose de faire entrer le mot Brexit, sans majuscule, dans la langue française. Il désignera un débat cacophonique et insoluble, une réunion foutoire, une assemblée bordélique. Exemple, l'assemblée des copropriétaires s'est achevée en Brexit. Sur le plan politique, maintenant, la crise qui secoue le Royaume-Uni révèle notamment l'absence de garde-fous efficaces pour contrer la dérive autoritaire du Premier ministre, estime dans Le Monde Pauline Schnapper et Emmanuel Avril. Le bras de fer entre le gouvernement, qui prétend tirer sa légitimité du résultat du référendum censé représenter la volonté du peuple, et la Chambre des communes, démocratiquement élue, montre combien le fameux modèle de Westminster, sous-tendu par une constitution informelle et dont l'une des caractéristiques est la fusion presque totale des pouvoirs exécutifs et législatifs, souffre de graves déséquilibres qui ont rendu possible cette crise sans précédent. Les deux professeurs de civilisation britannique contemporaine à la Sorbonne Nouvelle ajoutent que cette crise est aussi l'aboutissement logique de tendances politiques et sociétales lourdes qui réclament des changements profonds dans le fonctionnement démocratique du Royaume-Uni. Si l'on élargit la focale, on conviendra que ces tendances politiques et sociétales ne concernent pas que la démocratie britannique. Dans l'Express, Marc Lilla évoque son dernier livre à paraître la semaine prochaine chez Desclée de Brouwer sous le titre « L'esprit de réaction ». L'historien des idées francophile analyse la pensée réactionnaire pour dénoncer les impasses d'une idéologie revenue au goût du jour dans l'orbite des populismes. Personne ne comprend plus comment fonctionne le marché international, surtout la finance, ni comment les contrôler démocratiquement dans les États souverains, résume-t-il, face à cette absence de lisibilité et cette peur de ne pas pouvoir maîtriser leur destin. Beaucoup de gens préfèrent rêver du passé. Pour le réactionnaire, deux options sont possibles face au désenchantement du présent, soit le retour en arrière pour rétablir les structures sociales anciennes mythifiées, soit enjamber le présent pour fonder une société nouvelle, inspirée du passé, mais plus autoritaire, plus agressive, tout en utilisant les outils modernes. La première option était celle d'un Charles Maurras, par exemple, la deuxième, celle des fascistes, prônant un futur inspiré par des fondements éthiques et culturels enracinés dans le passé, mais sous une forme moderne ou même hyper moderne, reposant sur l'industrie, la science, la technologie. Le Figaro a également invité Marc Lilla à présenter son livre. L'exercice commence par une mise au point sémantique. La différence entre réactionnaire et conservateur. Réponse, le conservateur part d'une conception particulière de la nature humaine et de sa relation à la société. Son adversaire dans la philosophie politique moderne, c'est le libéral. Pour le conservateur, la vie politique tourne autour de la nécessité de transmettre la culture, la langue, les traditions. La pensée du libéral prend comme point de départ l'individu porteur de droits détaché de la société. D'où le positionnement boiteux de l'auteur, le mot est de lui, qui fait l'éloge discret d'un conservatisme libéral qui s'inscrirait dans la tradition de Tocqueville et de Raymond Aron. Il se définit aussi comme un démocrate libéral, non pas dans le sens du libre marché, mais dans celui, dit-il, de l'autonomie gouvernementale, de la solidarité civique et de la modération. Dans un précédent livre sur la gauche identitaire américaine, il fustigeait une gauche sans soubassement intellectuel et obnubilée par le sort des minorités. Mais aujourd'hui, depuis que Bernie Sanders a brandi le mot « socialisme », de nombreux militants et élus démocrates se sont engouffrés dans la brèche. En 2010, observe Anthony Mansui dans le magazine Society, le mouvement anti-parti avait commencé à transformer le parti républicain, déjà très à droite, en véhicule à idées purement réactionnaires et constituer les bases du mouvement Trump. Sur les cendres d'Occupy Wall Street, des déceptions laissées par la présidence Obama et de la candidature candidature de Bernie Sanders en 2016, cette nouvelle gauche américaine parviendra-t-elle à prendre le contrôle du parti démocrate, demande-t-il. Michael Carter, 28 ans, a dirigé la campagne d'Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune femme jamais élue au Congrès. Il parle d'une révolution culturelle. Nous n'avons pas subi le lavage de cerveau organisé durant la guerre froide autour du mot socialisme. Nous avons grandi avec la guerre en Irak et l'effondrement du système financier et avec un accès démocratisé à l'information, dit-il. L'un des éléments qui a poussé ces jeunes Américains à se gauchiser serait aussi le fardeau des dettes contractées pour mener leurs études.